Donc je vais vous parler de Paul Dorvaux, je refais l'introduction. Donc vous avez ici l'une des seules photos dont on dispose, qui a été reproduite à quelques reprises dans la revue d'histoire de la pharmacie. Donc il ne s'agit pas de l'original, je ne sais pas où est l'original malheureusement, ça serait évidemment intéressant de retrouver tous ces documents. Vous avez sa date de naissance et sa date de décès, donc une longue vie très fructueuse au niveau de ses travaux et surtout cette information qui nous permet de nous situer en Lorraine. Il est né à Courcelles-Chaussy, donc en Moselle, à une vingtaine de kilomètres de Metz. Alors, j'ai pas voulu faire de bêtises, donc j'ai demandé à Pierre si vraiment Metz et Nancy, c'était vraiment la Lorraine, s'il n'y avait pas de conflit au sein de cette Lorraine. Bon, apparemment, c'est bon, je suis dans le sujet. Donc, c'est un Lorrain. Première chose à retenir, Dorvaux est un Lorrain. Alors, Dorvaux, on le connaît particulièrement dans notre société, puisque, comme vous pouvez le voir dans l'ours, si j'ose dire, du premier numéro du bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie, il est secrétaire perpétuel de la Société d'Histoire de la Pharmacie à sa fondation. C'est l'un des trois fondateurs, on va dire, principaux, de la Société d'Histoire de la Pharmacie, avec Eugène Humbert-Guittard, qui était donc secrétaire général, et donc Charles Buchet, qui va être le financier de cette aventure, et qui était le directeur de la pharmacie centrale de France. Donc personnage très important, personnage également important pour la Société française d'histoire de la médecine, puisque à partir de 1913, la même année de la fondation de la Société d'histoire de la pharmacie, il devient président, et il le sera par le fait de la guerre jusqu'en 1919, en pratique. Voilà, alors bon, on parlait de Pau, un spécialiste des Pau, hein, qui serait peut-être utile pour faire avancer notre enquête sur Lunéville, mais bon, il n'est plus là. Un ouvrage de référence dont vous voyez ici la deuxième édition, aux éditions de la librairie Marquest, qui était la librairie d'Eugène Humbert-Guittard, donc le voilà, celui par qui est advenu la Société d'Histoire de la Pharmacie. Rôle éminemment important. Je vous rappelle ce numéro 38, supplément au numéro 38. Donc vous avez beaucoup d'informations sur Dorvaux, son jubilé scientifique. Vous avez tout ça sur Percé. Hein, vous pouvez le consulter sans problème. C'était donc en 23 au moment où il était, en 22 au moment où il est parti à la retraite, puisque nous allons suivre un petit peu sa trajectoire professionnelle. Dorvaux, juste un tout petit rappel avant de rentrer dans le détail. Il est médecin. Il a un parcours assez complexe. Au départ, il voulait pas du tout être médecin. Il voulait travailler dans l'enregistrement, hein, donc plutôt les douanes et tout ça. Et puis la guerre de 70 va faire en sorte qu'il va changer de trajectoire professionnelle et il va s'inscrire donc à la nouvelle faculté de médecine de Nancy en 72. Il est, comme on dit, optant, c'est-à-dire qu'il a choisi la nationalité française alors qu'il aurait pu être automatiquement allemand. Il a préféré donc se réimplanter sur le territoire français. Et donc, il va faire ses études de 1872 à 1880. Alors, je suis désolé, je n'ai pas l'information parce qu'il faudrait aller fouiller dans les archives qui sont certainement quelque part, mais ce n'est pas ce point-là que je vais aborder dans la communication. Donc, en 80, il soutient sa thèse et à partir de là, il s'installe comme médecin de campagne à Jarny, pas très loin de Metz, hein, toujours dans le même secteur, mais en territoire français. Il s'installe avec sa mère, racine familiale, hein, que je ne vais pas démêler, mais visiblement qui explique son emplacement, son premier emplacement, donc en 1880, et en 1882, il devient bibliothécaire. Donc il s'est passé quelque chose entre les deux. On a très peu d'informations sur son parcours à Jarny, à proprement parler, il en a très peu parlé, il a dit globalement, je résume, qu'il était lassé par cette activité où il était corvéable et donc il était plus intéressé par les livres que par peut-être ses patients. Et donc il va choisir, il va opter pour un certain nombre d'opportunités qui vont lui permettre d'exercer un autre métier. Alors en 80, probablement, il ne sait pas trop ce qu'il va faire encore. Alors voilà une chronologie que j'ai essayé d'établir pour y voir un peu plus clair. Donc il soutient sa thèse en 80, comme je l'ai dit, il s'installe à Charny, en Meurthe-et-Moselle. Il y reste, là aussi les dates sont relativement vagues, mais on va dire de 80 à 81, sachant qu'il y a quand même 12 mois dans une année, et donc voilà, on peut placer soit en juin, soit en juillet, la fin de son activité médicale à proprement parler. Alors, le premier repère qui est le plus important, c'est en 79, Jules Ferry décide de reprendre en main les bibliothèques d'université, qui jusqu'alors étaient relativement mal gérées, on va dire, par des personnes qui n'étaient pas souvent habilitées à s'en occuper, hein, qui étaient souvent des administratifs des différentes facultés ou universités, et qui étaient placés là avec le président de l'université ou le doyen qui décidait, tiens, tu vas là et tu vas t'en occuper à temps partiel, on va dire, et non pas à temps complet. Et donc Jules Ferry dit, il faut quand même essayer d'avoir un niveau suffisant en France, et il va instaurer un certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire d'université qui n'existait pas jusqu'à présent. Et donc, 79, l'année avant la thèse de Dorvaux. En 81, Paul Dorvaux. Alors, première date importante que j'ai repérée, qui n'est jamais évoquée dans ses biographies, on va dire, c'est biographie plutôt, le 10 juin 1881, il devient membre de la Société d'archéologie lorraine et du Musée lorrain. Alors j'ai repéré ça, alors il ne va pas avoir une activité extraordinaire dans cette société savante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est à mon avis une étape indispensable pour ensuite devenir ce que vous voyez après, c'est-à-dire à partir de janvier 82, on va revenir en détail là-dessus, surnuméraire à la bibliothèque de la faculté de médecine de Nancy, ça veut dire qu'il a renoncé à son activité de médecin de campagne, ça c'est clair, qu'il s'est installé à Nancy, évidemment, et surnuméraire, ça veut dire qu'il n'est pas payé. Il peut avoir éventuellement des petites sommes comme ça, s'il y a un budget, mais il n'est pas payé à proprement parler, et c'était la voie à l'époque pour accéder aux bibliothèques. Hein. On faisait des stages, en fait, hein, des stages, et à force de faire des stages, on les accumulait, et on finissait par rentrer dans le système, voire à devenir fonctionnaire, puisque c'était le cas des bibliothécaires. En juillet 82, il va passer ce fameux concours, hein, donc c'est la troisième année, et il est classé premier à ce concours d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire d'université. Et ensuite, trois postes successifs, mais vous voyez que c'est très très rapproché. Un premier poste en juillet, fin juillet, à la bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand. Là, il n'y reste que quelques semaines. Ensuite, il est placé à la bibliothèque d'Alger par quelqu'un que nous allons évoquer, qui est un Lorrain, pas pour rien. Et en 84, il est placé par ce même quelqu'un à la bibliothèque de l'école supérieure de pharmacie, où là, il va bien s'implanter, puisqu'il va y rester 38 ans, et il va réaliser des travaux qui sont la base, véritablement, du fonctionnement actuel de la bibliothèque de la faculté de pharmacie de Paris. Ce qu'on appelle l'annexe, le pôle pharmacie de la bibliothèque interuniversitaire de santé. Plus c'est long, plus c'est clair, comme vous savez. Alors, quels sont les Lorrains qui vont aider, en quelque sorte, Paul Dorvaux à se transformer, en quelque sorte, de médecin, tout simplement, en bibliothécaire. Alors, ce premier ami qu'il cite à plusieurs reprises, c'est Justin Favier, qui est né en Meurthe-et-Moselle, hein, donc on est toujours dans le même secteur autour de Metz, 20-30 km, quelque chose comme ça, et pas exactement au même endroit, mais plus au sud, si je me souviens bien. Et Favier est à l'époque, donc vers 1880, sous-bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Nancy. Et c'est un très grand ami de Dorvaux, il le cite, il le remercie évidemment, à quelques reprises, dans les rares données hein, qu'il laissera dans la revue d'histoire de la pharmacie. Donc, voilà. Bon, là, je suis obligé de faire des hypothèses. Hein. Il est ami avec Favier. Favier est évidemment au sein de l'activité des bibliothèques au sens large. Il y a des revues spécialisées. Et dans ces revues spécialisées, évidemment, on a reproduit l'arrêté de 1879 que j'ai cité tout à l'heure, avec l'existence, la nouvelle existence d'un certificat d'aptitude pour exercer les fonctions de bibliothécaire d'université. Donc c'est lui très probablement qui lui conseille de suivre cette voie pour rentrer dans le domaine qui l'intéresse le plus. Donc voilà une petite photo, on est probablement dans les années, je sais pas, 80, de la bibliothèque municipale. Et Favier est très connu, évidemment, pour avoir produit beaucoup de choses sur l'histoire lorraine et avoir produit ces fameux catalogues du fonds lorrain. Voilà. Et donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Favier était membre de la Société d'archéologie lorraine et que c'est lui qui va parrainer l'entrée, donc en 81, de Dorvaux dans cette société savante. Alors, vous allez me dire, pourquoi rentre-t-il dans une société savante ? Puisqu'il ne va rien y faire, il ne va pas écrire dans la revue, évidemment pour se faire un CV. Parce qu'il va avoir besoin d'avoir, pour l'instant, il n'est que médecin de campagne. Hein. Il n'a pas d'accroche, d'érudition, par exemple, d'éléments d'érudition à mettre en avant pour être recruté par la suite. Alors, le deuxième temps, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'entrée à la bibliothèque de la faculté de médecine de Nancy. C'est un nom qu'il ne cite jamais, donc ça signifie probablement quelque chose, mais c'est quand même son supérieur. C'est le bibliothécaire en chef de cette bibliothèque. Et il s'agit d'Abraham Netter, qui était un médecin, lui aussi, donc bibliothécaire et médecin, médecin de l'armée à la retraite, et qui avait été recruté par les modes de recrutement tels qu'ils existaient dans les années 60-70, c'est-à-dire un petit peu aléatoire. Il n'y avait pas de certificat, comme je vous l'ai dit. Alors lui, il n'est pas un Lorrain, hein, Strasbourg n'est pas en Lorraine encore, et donc, si j'ose dire, mais en revanche, il va s'implanter effectivement à Nancy. Alors, il n'y a strictement aucune information, enfin j'en ai pas trouvé, sur les liens entre Netter et Dorvaux. Ça serait intéressant d'essayer de trouver des archives du fonctionnement de la bibliothèque de l'école de médecine à cette époque, et peut-être on trouverait un petit dossier Dorvaux qui pourrait être intéressant. Le troisième personnage, c'est le plus important, c'est Loredan Larchet. Alors, Loredan Larchet, donc vous avez ici une représentation. Il y a pas mal d'images de Larchet, en particulier cette photo de Nadar, qui est assez connue. Donc, Loredan Larchet, c'est un très grand bibliothécaire. Très, très grand bibliothécaire, très influent, très bien placé dans toutes les commissions qui décident des bibliothèques en général. C'est le bibliothécaire de la bibliothèque de l'Arsenal, qui n'est quand même pas un lieu négligeable, et d'autant moins négligeable que le certificat d'aptitude, quand il faut le passer, il faut aller à la bibliothèque de l'Arsenal. C'est-à-dire que Dorvaux va aller à la bibliothèque de l'Arsenal et va avoir en face de lui très probablement trois membres du jury, dont Loredan Larchet. Alors, comme vous l'avez remarqué, Loredan Larchet, il est né à Metz. Alors, Dorvaux l'a écrit hein, lui-même. C'est-à-dire que Loredan Larchet, le voyant, se dit « Tiens, tiens, un compatriote intéressant par ailleurs. » Il est impressionné également par la stature de Dorvaux, qui est très grand, très très, très grand hein, pour l'époque, je crois pas loin de 80, 90, quelque chose comme ça. Et il estime que les bibliothécaires ne doivent pas être forcément frêles, parce qu'il y a des énormes livres reliés qu'il faut transporter d'un endroit à un autre, et parfois c'est difficile, on se fait un tour de rein, etc. Et voilà. Donc il est très très impressionné par Dorvaux, par la, la trajectoire professionnelle, les choix de Dorvaux, hein, le fait de faire des études de médecine et ensuite de se diriger vers les bibliothèques, ça démontre quand même une certaine volonté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il va le prendre en affection. Ils vont être très très amis. Hein. Ils vont même publier des choses dans les années suivantes ensemble. Et donc, on ne va pas parler de piston. Hein. Il va tout faire pour l'aider à progresser le plus rapidement possible dans sa carrière. Donc, je vous ai dit, hein, les différentes étapes, Clermont-Ferrand, Alger, et donc, en 1884, il est nommé, il le dit lui-même, grâce à Laurédan Larcher. C'est Laurédan Larcher qui décide de le mettre à la bibliothèque de l'école supérieure de pharmacie. C'est un choix de Laurédan Larcher parce qu'il est approprié, de par ses connaissances médicales, pour se retrouver là. Donc ça, c'est intéressant. Alors, regardez, ça c'est des photos magnifiques qui ont été scannées par la Bibliothèque interuniversitaire de santé. Date de 1909, d'après l'évaluation qu'on fait. Et là, on voit très bien Dorvaux. Avec l'un de ses assistants, je ne suis pas sûr du nom, donc je ne vais pas l'avancer, et puis des lecteurs qu'on pourrait reconnaître. Une autre photo qui nous montre Dorvaux, qui a changé un peu de place. On a probablement changé également d'appareil ou de type de pellicule, puisque ici, nous avons de la couleur, à moins que ça soit du pochoir. Donc voilà le lieu dans lequel il va s'installer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, à proprement parler? Pourquoi Jules Ferry avait fait cette réforme de 79? C'est parce que jusqu'alors, on ne savait pas, au sein des bibliothèques d'université, on savait très peu faire des inventaires, suivant des normes. Vous savez que c'est important, les normes dans les bibliothèques. Eh bien, on ne savait pas les faire. Donc, c'était la pagaille, je résume globalement, dans la plupart des bibliothèques. Et, semble-t-il, beaucoup à la bibliothèque de l'école supérieure de pharmacie de Paris, où la personne qui s'occupait de cette activité, qui s'appelait Le Mercier, était en fait un administratif qui avait été placé là par le doyen de l'époque. Et qui ne donnait visiblement pas grande satisfaction aux différents responsables qui essayaient d'évaluer le travail au sein des bibliothèques. Alors, bon, je ne vais pas l'accuser, hein, voilà, il n'a pas pu se défendre. Ce qui est clair, c'est qu'il a été éjecté de son poste, il disparaît après, mais je l'ai retrouvé, et à la place, on met Dorvaux. Voilà, donc c'est un choix de reprendre en main la bibliothèque de l'école supérieure de pharmacie, pour en faire une bibliothèque digne de ce nom et extrêmement opérationnelle. Le Mercier, je l'ai retrouvé, il se retrouve une dizaine d'années plus tard, 7 ou 8 ans plus tard, c'est par hasard, hein, je suis tombé dessus, je vais vous dire, hein, ça montre qu'il n'avait pas la vocation. Il se retrouve, je crois, au Tonkin, dans une ambassade quelconque, Donc il devient commis là-bas, il souffre de la tuberculose, visiblement d'après un certain nombre d'informations, et il meurt à Yokohama, dans une clinique spécialisée dans les soins contre cette maladie. Donc vous voyez, hein, deux trajectoires contrastées, donc quelqu'un qui va à la fonction bibliothécaire avec une volonté, voilà, et quelqu'un qui s'y est retrouvé un petit peu par hasard, peut-être qu'il aimait les livres hein, aussi, mais qui s'y retrouve par hasard et qui se retrouve à des milliers de kilomètres quelques années après. Donc les inventaires qui sont conservés toujours à la bibliothèque de la faculté de pharmacie, eh bien, en les feuilletant, eh bien, on s'aperçoit que c'est l'écriture de Dorvaux, hein. Tout le temps c'est l'écriture de Dorvaux. C'est un travail monumental qu'il a effectué parce qu'il fallait recommencer pratiquement à zéro en utilisant toutes les normes qui était également mise en valeur par la réforme de 79. Cela dit, vous allez me dire, très bien, il est bibliothécaire, mais on le connaît comme historien. Or, il se trouve que jusqu'en 82, il n'a rien écrit, Dorvaux, rien du tout. Après 82, ses publications, ce sont des inventaires, c'est-à-dire ce travail-là, globalement, qui sont reproduits dans des journaux de l'époque, mais il n'y a pas d'étude historique au sens propre. Hein. Il fait son travail de bibliothécaire, qui n'est pas forcément un travail d'historien. Et donc, il va y avoir un nouveau Lorrain, mais un Lorrain d'adoption, qui est Léon Kauffheisen, donc qui est né en fait dans le Bas-Rhin, qui va être un membre éminent, lui aussi, de la Société d'histoire de la pharmacie. Hein. Il y aura un hommage qui lui sera rendu après la guerre dans les colonnes de la revue. Et quel est le lien, vous allez me dire, hein, parce que le Bas-Rhin, la Lorraine, enfin, et la Moselle, c'est pas tout à fait la même chose, mais les deux vont suivre des études au même endroit. C'est le lycée Saint-Clément, lycée de jésuites de Metz. Donc, ils vont, pendant 3 ans, ils vont être compagnons, même. L'un est plus âgé, Kauffheisen a 1 an, donc il est dans une classe supérieure, mais apparemment, ils font les 400 coups ensemble. Enfin, Dorvaux suggère ça dans un de ses textes. Et, bon, la guerre arrive, et ils se perdent de vue. Kauffheisen va aller à Montpellier faire ses études de pharmacie. Dorvaux, je vous ai raconté. Ils se perdent de vue. Et dans les années 1880, Dorvaux, qui est devenu bibliothécaire, eh bien, l'une de ses activités préférées, c'est de recevoir des revues pharmaceutiques, de les dépouiller, de les intégrer dans les collections. Et qu'est-ce qu'il s'aperçoit ? Il s'aperçoit que la Société syndicale des pharmaciens de la Côte d'Or, donc on a changé encore de région, édite un bulletin. Et que le rédacteur en chef du bulletin est Léon Kauffheisen. Donc il reprend contact avec son ancien ami, il est content de l'avoir retrouvé, hein. C'était bien avant Internet et Google, hein. Donc pour retrouver quelqu'un c'était pas forcément évident, et voilà, les relations amicales reprennent et vont durer pratiquement jusqu'à la mort de Dorvaux. Et un jour, semble-t-il, Kauffheisen dit à Dorvaux, bah, pourquoi tu m'écrirais pas un article sur un sujet intéressant, l'histoire de la pharmacie. Et donc il lui propose j'ai plus le titre exactement, il lui propose des catalogues, enfin des inventaires provenant de la ville de Dijon où il s'est implanté. Et donc la première publication scientifique, historique de Dorvaux, eh bien, c'est pour ce bulletin, et c'est sur ces inventaires en question. Donc c'est grâce à un Lorrain que probablement Dorvaux a été poussé, en quelque sorte, a été conduit plutôt, à avoir une activité de bibliothécaire, grâce à un autre Lorrain qu'il a été nommé à Paris, à la faculté de pharmacie, hein, je sous silence Alger, hein, puisque visiblement le choix d'Alger venait également de son ami. Et c'est grâce à un Lorrain d'adoption qu'il va commencer à écrire. Et là, alors là, il va commencer à écrire et il ne va plus arrêter. Hein. Jusqu'à la fin de sa vie, il va écrire constamment. Il va devenir un vorace de l'écriture. Hein. On a retrouvé récemment des courriers. Il n'est travaillé que par le souci d'écrire, de laisser des traces historiques sur les documents qu'il est en train d'analyser. Donc voilà, hein, le rappel sur Kauffheisen, le lycée Saint-Clément. Voilà, là, le titre, c'est « Inventaire d'ancienne pharmacie dijonnaise, 15e siècle ». Première publication scientifique. Alors, juste avant de terminer, pour vous signaler que, par exemple, pour l'année 1913, hein, celle de la naissance de la Société d'histoire de la pharmacie, mais celle où il préside la Société française d'histoire de la médecine, eh bien, vous voyez quelques-unes de ses publications. Hein, c'est dans le jubilé, le texte du jubilé que je vous ai montré. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il est obsédé par sa région, hein, la maladie de Louis XV à Metz. Vous avez plein de références jusqu'en bas, et jusqu'en bas, ici. Donc, relation d'un voyage de Metz à Saint-Claude. Et qu'est-ce que vous voyez ? Extrait du bulletin de la Société syndicale des pharmaciens de la Côte d'Or. Ça va faire pratiquement un quart de siècle qu'il écrit pour ce bulletin. C'est pour dire la fidélité à Kauffheisen. Le bulletin s'arrêtera justement en 1913. Ça sera son dernier numéro. Un tout dernier point. En consultant ces éléments de correspondance, qui ne sont pas très nombreux, malheureusement, j'ai pu constater l'attachement d'Orvault à Béchy, hein, qui était sous occupation allemande, elle, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, puisque sa femme était née à Béchy, hein, donc était la fille du maire de Béchy, à proprement parler. Et donc, il a l'habitude d'envoyer à Guitard des cartes postales de Béchy, dans lesquelles il raconte ses séjours l'été, hein, il va de temps en temps à Béchy. Et donc, voilà. Alors, je voulais vous signaler cet ouvrage dont on avait parlé à l'occasion d'un conseil d'administration récemment. Donc, il sortira dans un mois à peu près. Et donc, vous voyez, donc le titre, c'est « Une société savante ». Il s'agit bien de la Société d'histoire de la pharmacie. Et son bulletin à la veille de la Première Guerre mondiale, il s'agit d'une correspondance donc, qui va de 1913 à 1914, qui a été retranscrite, annotée, etc. Et donc, vous voyez ici les trois personnages clés de la fondation de la Société d'histoire de la pharmacie. Donc, Charles Bouchet, Paul Dorvaux et Eugène Albert Guitard. C'est-à-dire que si nous sommes ici, aujourd'hui, c'est quand même aussi grâce à eux, parce qu'ils ont eu l'idée, il y a plus de 100 ans, de créer cette société savante. Alors, la publication de cet ouvrage correspondra au numéro 400 de la revue d'histoire de la pharmacie, hein, c'est le prochain numéro. Donc, 400 numéros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le temps passe. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui.
Oui, je voulais remercier Thierry de nous avoir fait revivre cet épisode et de nous avoir parlé de gens extrêmement intéressants sur le plan historique, et en particulier là où Pfeiffer mériterait d'être mieux connu, et il serait certainement intéressant de publier avec précision le bulletin de la Chambre syndicale, parce qu'il y a dedans des titres qui sont extrêmement intéressants à lire et qui doivent cacher des richesses. Par ailleurs, est-ce que tu as regardé les travaux pharmaceutiques